Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Vous l'avez peut-être vu dans le jury de Danse avec les Stars sur TF1. On a interviewé François Allu, danseur étoile, qui a pas mal fait parler de lui, notamment pour avoir quitté l'Opéra de Paris pour se consacrer à ses propres projets, comme son spectacle Complètement Jeté, où il mêle humour, danse et théâtre. Originaire du Cher à l'origine et pas du tout de la capitale, il nous l'a confié, ses débuts dans la danse n'ont pas été des plus faciles.
Alors les débuts, ils ont été très mouvementés parce que donc j'ai dû quitter ma famille à laquelle je suis très attaché. J'avais 9 ans et demi quand j'ai quitté le berceau familial, mon petit berceau à Fussy dans la région centre pour monter dans la capitale, et c'est vrai que c'était un déchirement, et en même temps j'étais hyper exalté d'aller à l'aventure et de pouvoir aller apprendre mon nouveau métier, de devenir un artiste. Après, je savais pas qui m'attendait tout ça, tous ces rebondissements. Et puis, c'est l'école de danse de l'Opéra de Paris, c'est une école qui est très, très difficile, hein, parce qu'on commence le matin. En fait, on a les cours de 8h à midi. Et ensuite, l'après-midi, on travaille de 13h30 jusqu'à 18h30, 19h, je crois, avec des cours de danse, des cours de musique, des cours d'histoire de la danse, des cours de folklore, enfin des cours de mime. C'était très varié. Et pour un enfant hyperactif comme moi, c'est vrai que à la fin des journées, je dormais bien.
C'est tôt quand même, non, 9 ans et demi pour quitter le nid familial?
Absolument. En fait, c'était très étrange parce que je me rappelle de moments très difficiles où j'appelais ma mère au téléphone, où je pleurais et elle me disait, mais si tu veux, tu peux rentrer. Je lui disais non, je vais rester, alors que il y a une part de moi qui était en souffrance totale. Mais il y avait un appel, je pourrais même pas l'expliquer, une sorte de foi en l'art quelque part, et qui me faisait tenir en fait. Et c'était ma voie, et j'ai suivi. C'était quelque chose qui était plus fort que l'amour que j'avais pour mes parents et pour mon frère, alors que c'était la chose la plus grande auparavant. Donc c'était quelque chose d'un peu mystique comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce qu'évidemment il y a eu des grands moments de souffrance, mais j'ai vécu des choses exceptionnelles aussi. C'est grâce à l'Opéra de Paris ensuite que j'ai pu aller danser dans le monde entier. On est allé au Japon, on est allé en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud. J'ai fait des rencontres incroyables, dont celle avec Samuel Mures, qui est le co-auteur de ce spectacle Complètement Jeté, qui a changé ma vie en fait par la suite, quoi. Donc vraiment, c'était assez incroyable. Et puis l'Opéra de Paris, ça m'a permis aussi de rencontrer des corps de métier fabuleux, parce qu'à la fois il y avait des gens qui faisaient des décors, des costumes, des machinistes, des administrateurs, des producteurs, enfin vraiment ça fourmillait. Puis évidemment tous les danseurs qui sont incroyables, les chorégraphes, hein, les chefs d'orchestre, c'est très fourni, et c'est une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir vivre tout ça, et aujourd'hui ça me rend très heureux.
Vous avez fait l'école de l'Opéra de Paris et vous avez intégré ensuite la compagnie de l'Opéra de Paris, c'est cela?
Exactement, je suis rentré dans la compagnie de l'Opéra de Paris à 16 ans et demi, exactement. C'est relativement tôt, parce que moi, j'ai pas passé mon bac, en fait. Il faut savoir que alors certains continuent les études par la suite. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était arrêter l'école à tout prix pour pouvoir ne faire que de la danse, parce que déjà, quand j'étais à l'école de danse, je ne faisais que danser. Même les week-ends, ma mère me disait « t'as bien fait tes devoirs ?» Je dis « oui, oui », alors que c'était pas vrai. Et puis parfois elle me disait mais sors, va voir tes amis. Et je me disais mais non, tu sais, je préfère être dans le studio de danse, quoi. Et vraiment j'étais passionné, quoi. J'ai dévalisé vraiment YouTube. Je connaissais toutes les vidéos par cœur, même les documentaires. Je connaissais les répliques. Enfin, j'étais un obsessionnel en fait de danse, quoi. Vraiment, j'étais happé par ça. Et j'avais un besoin immense de me dépenser. Mais surtout de danser. Il faut savoir que dans les supermarchés, quand je faisais les courses avec mes parents, même plus jeunes, dans les allées entre les haricots et les petits pois, je faisais des tours en l'air, des pirouettes, avec mes parents qui me disaient « arrête, s'il te plaît, arrête ».
De la danse, mais aussi du cinéma et de la télévision avec Danse avec les Stars, quel est l'exercice que vous préférez?
Je crois que ce qui me plaît fondamentalement, en fait, c'est d'incarner des personnages et de raconter des histoires, de créer. En fait, plus globalement, c'est dans des instants de création intense. Des moments où je suis en collaboration et où je vais être, par exemple, je pense à Samuel Mures, quand on est tous les deux et qu'on est en train d'écrire ensemble et qu'on rigole ou qu'on se dit ah tiens, j'ai une super idée, il va se passer ça. Enfin, c'est le fait de d'alimenter la créativité par quelque chose. En l'occurrence, au début c'était la danse principalement, mais comme vous le disiez, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit rôle au cinéma pour Andrea Bescon et Éric Métayer dans leur futur film qui j'espère sortira prochainement. Et puis j'ai moi-même en fait pendant le confinement écrit deux films qui ont été diffusés ensuite sur sur Culture Box, un avec Kamel Menour qui est un galeriste à Paris, et un autre que j'ai vraiment produit de A à Z, qui s'appelait L'Échappée et La Source. Et j'ai adoré en fait le côté narratif, la réalisation, le fait de m'intéresser à l'image, aux couleurs, aux lumières, aux axes. Enfin, en fait, c'est le fait de pouvoir plonger un spectateur ou un téléspectateur dans un autre univers qu'une routine quotidienne. En fait, ça, c'est vraiment mon objectif. Et je crois que, en fait, c'est vraiment lié à mon hypersensibilité. Au début, c'était assez pathologique. C'est-à-dire qu'en cours, en scolarité, je posais des questions qui n'avaient pour tout le monde absolument rien à voir. Et tout le monde me disait, mais il est idiot, mais il est débile, mais il est bizarre. Enfin, j'avais un peu ce côté-là. Et pendant longtemps, ça m'a peiné. Et suite à une longue thérapie de 7 ans avec une psychologue, et ben j'ai compris déjà d'où ça venait, cette hypersensibilité, et les pouvoirs, entre guillemets, les pouvoirs et les faiblesses que ça a apporté. Et je me suis dit vraiment, voilà, il faut essayer d'en faire bon usage. Et en fait, le pouvoir que ça apporte, c'est qu'on a une limite qui est hyper poreuse, en fait, entre le monde de l'inconscient et le monde du conscient. Et donc, les informations passent très, très vite, très rapidement. Et il y a des choses complètement incongrues qui sortent. Mais justement, quand on est en scolarité, ou si je travaille dans un bureau, dans une banque, par exemple, et que je faisais le type de réflexion que je fais, je pense que je serais rapidement renvoyé. Mais en revanche, en tant qu'artiste et en tant que créateur, je pense que justement, c'est ce qu'on vient voir, parce que finalement, quand on va au théâtre, c'est un endroit où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est des choses qui n'ont pas lieu normalement dans la vie de tous les jours, ou des scènes qui sont un peu étranges ou dérangeantes. Et là, on les met justement en exergue sur la scène. Et ça me plaît beaucoup, parce que les personnes dont je fais partie aussi, hein, en tant que spectateur, on ressort et on est bouleversé, on se sent vibrant. Et je pense que c'est ça le propre de la vie, en fait, c'est d'avoir des émotions aussi très fortes, et j'aime être un procurateur d'émotions, voilà.
Est-ce que cela vous a apporté quelque chose de participer à Danse avec les Stars?
Ah, bah absolument, parce qu'en fait, Danse avec les Stars, donc c'était les premiers moments où moi, j'avais déjà fait un petit peu de télé, quelques interviews, mais là, c'est vrai que c'est quand même des millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque soir. C'était pas forcément ce même public, en fait, qui venait voir les spectacles dans lesquels je jouais, donc je suis content d'être allé à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux spectateurs, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu, je me rappelle, il y avait trois jeunes filles qui sont venues à Paris après mon spectacle au Trianon, et elles m'ont dit, bah écoute, on n'était jamais allé voir de spectacle comme ça, et ça nous a vraiment beaucoup plu, ça nous a séduit, et merci, en fait, parce que si t'étais pas venu sur Danse avec les Stars, on serait pas venu non plus, et je suis content, parce que c'était un peu le moteur de pourquoi j'ai fait cette émission. Je me suis dit, ce serait génial d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Et puis, c'est vrai que, pour être très honnête, j'étais pas forcément très épanoui juste avant de faire Danse avec les Stars. C'était un moment un petit peu compliqué pour moi, pour plein de raisons. Et j'avais lu dans un livre une phrase que j'avais adorée, qui disait « Pour être là où tu n'es pas, il faut emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas ». Et auparavant, jamais, je pense que si on m'avait proposé de faire Danse avec les Stars quand j'étais pleinement à l'opéra, à 100% là-dedans, je pense que j'aurais décliné la proposition, parce que j'étais, encore une fois, obsessionnel et peut-être trop enfermé dans une vision. Et là, je suis content de m'être ouvert, parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait rencontrer de très belles personnes. J'ai pu apprendre, enfin, et travailler sur ce nouvel exercice qui est être juré, mais à la télé. J'avais déjà fait juré à l'Opéra de Paris en tant que membre pour le concours interne et concours externe. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil, parce qu'on doit faire des commentaires relativement concis, il y a quand même du jeu, de la tension et tout ça, donc c'était un bel exercice, et puis très intéressant de voir tous ces corps de métier aussi qui s'activent dans la télévision, quoi, le premier assistant, le technicien, les danseurs, le fait d'enregistrer, d'empexer des choses avant, de les diffuser après, de voir la gestion du public en direct aussi, enfin, c'est vraiment très très intéressant.
Parlez-nous de votre spectacle Complètement Jeté, donc votre premier seul en scène qui mélange plein de styles différents apparemment.
Alors c'est assez marrant, parce que quand mon attaché de presse est venu le voir pour la première fois, il a dit mais en fait ça n'existe pas, c'est du dance-up. En référence au stand-up et au stand-up dansé finalement, et je crois que c'est un petit peu ça, c'est un moment qui est assez intense. Je crois que ça représente un peu ma vision du monde finalement, c'est-à-dire c'est très compact, c'est très dense, avec un E et avec un A. Il y a 15 variations de danse, donc il y a du classique, il y a du contemporain, il y a un solo de hip-hop aussi où pendant une minute je me déchaîne et après je suis épuisé. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, donc on le conserve dans le spectacle. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ce spectacle, il y a aussi plein de personnages. C'est plein de personnages qu'il y a dans ma tête réellement, des voix que j'entends, un peu comme Jeanne d'Arc, hommage à Bourges, notre région centre. Et donc voilà. Et en fait, c'est un personnage que j'incarne où il y a un peu de moi quand même dedans, même pas mal de moi. Et toutes ces voix, en fait, elles viennent bouleverser et elles viennent percuter comme ça le personnage. Alors évidemment, c'est très humoristique, mais il y a aussi des moments où de tension, en fait, où j'ai peur, où je suis en colère, où il y a de la rébellion. Et en fait, ce spectacle, on l'a vraiment créé avec Samuel Mures pour une raison. Enfin, moi, c'était essentiel pour moi. Je me suis dit, j'ai envie de me détacher du quand dira-t-on. Étant danseur, c'est vraiment le propre de notre métier, c'est d'être regardé en permanence. Donc, on se regarde aussi, nous, beaucoup dans le miroir. On se dit, est-ce que ma jambe, elle a assez tendu? Est-ce que mon pied a assez tendu? Est-ce que mes cheveux, moi, j'en ai plus. Mais est-ce que mes cheveux sont bien coiffés? Est-ce que j'ai un bon teint? Est-ce que si... En fait, c'est un métier d'image. Et je me suis dit, mais c'est terrible parce que ce métier d'image, en fait, il impacte beaucoup sur la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on se regarde énormément le nombril et on est très sur nous. Et on est très vulnérable en fait à ce que va penser l'autre. Et je me suis dit vraiment j'aimerais. Et puis je voyais autour de moi dans mon entourage, pas que dans les danseurs, mais dans d'autres êtres humains dont je suis proche, qui étaient très sensibles en fait. On est tous assez sensibles à ce que pensent les gens de nous. Et je me suis dit mais libérons-nous de tout ça, libérons-nous de ces chaînes et de ces limites qu'on s'impose nous-mêmes. Je serai jamais capable de faire ci, ça sera pas possible de faire ça. Non, mais ça, j'ai pas le droit. Et en fait, j'avais envie vraiment de me détacher de ces chaînes-là et de partager ça au plus grand nombre. Je voulais que ce spectacle soit vraiment universel parce que c'est trop dommage de passer à côté de sa vie parfois. Et typiquement, ne serait-ce que l'exercice du seul en scène. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, d'être en scène, de parler, de raconter l'histoire. Mais je me disais non, mais de toute façon, toi, t'es trop bête. T'es trop stupide, tu peux pas apprendre un texte, à l'école t'y arrivais pas, et puis tu sais pas bien écrire, et puis voilà. Et en fait, je me suis lancé ce challenge, c'est de ça lieu pendant le confinement, en fait, vraiment avec Samuel, c'est là où on a commencé à écrire chacun de son côté, puis ensemble, et en fait, on a vraiment fait ce spectacle à deux, et c'est là où est né, en fait, ce tissu de paradoxe en fait qui nous compose et de montrer que c'est ok finalement d'avoir toutes ces différences et que c'est même intéressant parce que ce qui nous différencie de la norme de la doxa et ben c'est ça qui va faire qu'on est unique et comme on dit ce qui est unique est cher et donc voilà moi j'ai envie de prôner cette différence et de prôner cette liberté au maximum et donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle qui est à la fois épuisant parce que je me donne comme pas possible à la fin je suis épuisé on avait capté avec un capteur cardiaque qui faisait aussi le nombre de calories je brûle 1500 calories pendant le spectacle donc c'est une heure et demie où ça n'arrête pas où je danse où je parle où c'est vraiment très intense et en même temps j'adore parce qu'il y a une vraie communion avec le public c'est ce qui me manquait en fait auparavant c'est qu'avant je dansais mais j'avais envie d'une proximité encore plus forte. Pour moi, c'est hyper important le lien avec le public. Et je me suis dit, mais comment je peux faire? Sachant que j'ai pas le droit de parler. Pour un moment, on s'est dit, mais bah, tu sais quoi, on va le prendre, ce droit de parler. Et donc maintenant, je peux directement m'adresser au spectateur et il y a un lien qui est très fort. Et puis, il y a des choses qui se passent pendant le spectacle. Parfois, les gens parlent, je peux reprendre ce qu'ils disent sur leur rire. Enfin, il y a une vraie interaction, une vraie connexion et c'est pas juste l'interprète sur la scène et les gens qui regardent. C'est quelque chose où il y a une vraie communion et ça me plaît énormément.
Merci François Allu, danseur étoile. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night. That's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Vous êtes sur Vibration avec moi, une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Alors donc du coup, je vous présente en tout cas comme Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Oui, c'est bien ça.
Du coup, Phoenix existe depuis 2014 ou je me suis trompé?
Non, c'est ça. Phoenix a été créé en mars 2014, très exactement. Donc, il y a un peu plus de 9 ans maintenant.
Moi, j'ai une première question, justement, parce que j'ai vu que vous étiez banquier d'affaires et que vous aviez lancé Phoenix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose qui est chevillé à votre corps, cette volonté de se battre contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi?
Effectivement, donc moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance traditionnelle. J'étais même dans une banque d'affaires américaine, où je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Donc un métier très intense, assez prestigieux aussi, et très axé sur l'économie, la finance, les gros groupes du CAC 40. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. J'étais pas malheureux, mais je trouvais que mon quotidien, mon métier manquait de sens. Et j'aspirais à créer une boîte, une entreprise qui apporte quelque chose à la société et à la planète, et qui fasse tourner le monde dans une meilleure direction, disons. Donc j'ai quitté le confort et les salaires, les bonus de la finance pour à 30 ans partir à zéro et créer Phoenix en me disant on va connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, et on va essayer de créer une entreprise un peu hybride qui a à la fois la volonté d'avoir de la croissance, de créer de l'emploi comme une start-up classique, mais qui en même temps a un petit supplément d'âme qui est la mission anti-gaspillage et solidaire. Et donc voilà, ça a marché presque mieux que prévu, mais tant mieux pour tout le monde.
Mais pourquoi le gaspillage alimentaire? Est-ce que vous auriez pu vous orienter vers plein de choses? Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le gaspillage alimentaire?
Eh bien, la vérité, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très complet, puisqu'il y a à la fois un enjeu environnemental. C'est pas très connu, mais si le gaspillage était un pays, ce serait le 3e contributeur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a la nourriture produite, transportée, et qui en fin de chaîne est détruite ou incinérée, elle dégage beaucoup d'impact carbone. Donc on a un gros pilier environnemental. Il y a évidemment, le deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un pilier social, puisqu'on a un rôle de Robin des Bois. On récupère les invendus chez les usines, dans les magasins, les hypermarchés, les commerces de proximité, et on les redistribue soit au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à l'aide alimentaire classique, soit dans des paniers anti-gaspillage aux consommateurs. Donc on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs fragiles. Donc on a un vrai impact sociétal. Et dans la période d'inflation, c'est plus que nécessaire. Et puis, il y a un volet digital, technologique, parce que pour faire tout ça, on a créé une application mobile, l'application Phoenix, et une plateforme pour digitaliser l'aide alimentaire et faire en sorte que les dons se fassent de façon fluide. Donc voilà, tout ça fait que c'est un projet qui, à mon avis, est super complet et qui est aussi dans l'air du temps. On a du vent dans les voiles avec toute la dynamique zéro déchet, anti-gaspille, économie circulaire. Et aussi, malheureusement, avec l'actualité brûlante sur l'aide alimentaire, la dynamique inflationniste, la quête de pouvoir d'achat. Donc, ouais, on pense que la société qu'on a créée, elle est utile et de plus en plus utile, et qu'elle constitue un peu un modèle aussi pour la façon de réinventer le rôle de l'entreprise dans la société.
Moi, j'avoue que je trouve ça assez impressionnant, tout ce que vous avez développé, parce qu'en effet, vous dites l'application. Donc là, c'est pour les particuliers. Vous avez aussi une plateforme pour les associations et vous aidez aussi les animaux et les parcs animaliers. Avec tout ça, comment ça se fait qu'il y a encore, entre guillemets, du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est les industriels qui jouent pas le jeu? Pourquoi?
On fait 3 choses. Nous, on récupère les invendus et puis après, notre métier, c'est de le donner à des assos, à des consos ou à des animaux. Et on pense que c'est cet ensemble de solutions, les 3 filières de de deuxième vie réunis, qui font qu'on arrivera vraiment au zéro déchet, zéro gaspillage. Donc les consommateurs, c'est sur une application mobile pour acheter des paniers à prix cassé. Les assos, ce sont les collectes alimentaires des invendus traditionnels. Et puis ce qui n'est pas consommé ni par des humains avec des consommateurs sur l'application, ni par des assos caritatives, c'est proposé à des animaux, donc la SPA, un centre équestre, un parc animalier, un zoo. Et donc les excédents de nourriture vont nourrir les bêtes plutôt que la poubelle. Donc on trouve que c'est du bon sens. Et pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi il reste encore du gaspillage? Parce que parfois c'est encore trop perçu comme un sujet qui est pas un sujet prioritaire. C'est un sujet sympa, sexy, qui donne du sens, mais qui est pas dans le cœur de métier d'un grand magasin, qui est pas au cœur des processus d'une usine. Et donc il faut qu'on arrive à remonter un peu la chaîne de valeur stratégique et qu'on explique aux décideuses et aux décideurs que non, c'est un projet dorénavant qui est central pour la planète, pour la société et pour tout ce qui est attendu par les consommateurs et les politiques. Et donc voilà, ça c'est notre métier de prêcher la bonne parole. Et donc c'est pour ça que des émissions de radio comme la vôtre ou des journées anti-gaspi comme celle du 29 septembre nous aident à prêcher la bonne parole et à porter ce combat anti-gaspi zéro déchet.
Quand vous dites les décideurs, c'est que il y a pas assez de volonté étatique aussi. C'est pas un sujet qui est central pour le moment.
Alors on a quand même été bien aidé, pour être honnête, par la puissance publique, puisqu'il y a deux choses qui nous aident. La première, c'est qu'il y a une loi anti-gaspillage qui interdit de détruire des invendus encore consommables. Donc avant, ce qui se passait parfois, c'est que les invendus, à partir de J-3, J-2, étaient sortis des rayons, et puis ils étaient javelisés. On mettait un peu de javel dans la poubelle pour pas qu'il y ait de glanage par les SDF du coin. Et ça, c'est devenu interdit. Et donc c'est passible d'une amende qui va jusqu'à 10 000 euros par infraction. Donc il y a vraiment le bâton réglementaire, la loi qui interdit de jeter. Après, elle est plus ou moins respectée sur le terrain, mais en tout cas, les politiques ont fait le boulot, disons. À côté de ça, il y a un deuxième dispositif en miroir, qui est pas un bâton, qui est plutôt une carotte. C'est une carotte fiscale. Et si les usines, les magasins, les industriels jouent le jeu et donnent des invendus aux associations d'aide alimentaire, ils sont éligibles à une réduction d'impôt. Et c'est 60% de la valeur du don qui est défiscalisable. C'est un peu comme pour les particuliers. Donc tout ça pour dire que l'État a quand même joué son rôle avec ce cadre réglementaire qui est incitatif et contraignant, la loi anti-gaspi et la fiscalité avantageuse. Et nous, ça nous a aidé à démarrer et à décoller aussi. Mais on pourrait aller encore plus loin. Et donc, voilà, c'est bien si les consommateurs mettent la pression sur les réseaux sociaux. C'est bien quand les médias mettent de la lumière sur ce sujet. C'est bien aussi quand les assos caritatifs prennent la parole, comme ça a été fait par le président des Restos du Cœur, haut et fort. Ça remet l'église sur la place du village. Donc voilà, chacun doit jouer son rôle et le combat n'est pas fini.
Et justement, quand vous dites le combat n'est pas fini, en l'état, on en est où? C'est quoi un peu l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France? Est-ce que ça réduit? On a des chiffres?
Alors en France, on considère que c'est à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage par an. C'est les chiffres de l'ADEME. Ça correspond à peu près à 16 milliards d'euros de valeur de produits. Et au niveau du consommateur, pour que ce soit plus parlant, le gaspillage, c'est quoi? C'est 70 euros de courses jetées chaque mois, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gaspillage chez les consommateurs, dans les frigos, les yaourts périmés au fond du frigo, les fruits qu'on laisse un peu pourrir dans le bac à fruits, une conserve qu'on a ouverte et qu'on a à moitié terminée. Et donc ça, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est 70 euros par mois et par foyer. Et donc ça fait quasiment 850 euros à l'année. Donc c'est aussi pour dire qu'en période d'inflation et quand tout le monde cherche un peu des économies pour pouvoir payer les factures d'énergie et d'essence qui explosent, l'anti-gaspi, c'est le bon vieux réflexe qu'avaient nos grands-parents d'accommoder les restes, de garder un peu de jugeote par rapport aux dates de péremption, de redécouvrir certaines recettes. Ça, il faut que ça revienne parce que ça permet d'économiser quasiment presque un SMIC à l'année quand on fait les choses bien.
Bah ça me permet d'embrayer sur justement le lancement de ce livre avec des recettes anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça a émergé, ce projet?
C'est un projet qu'on a déjà en tête depuis quelques mois. Et donc, on a voulu créer un guide de recettes à la fois anti-gaspi et à petit prix pour montrer que la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est évidemment vertueuse pour la planète, mais elle est aussi vertueuse pour le porte-monnaie et qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, en retrouvant d'un côté le goût de la cuisine, retravailler des restes, être un peu inventif dans la façon dont on conçoit ses repas, Et en même temps, c'est bien pour le porte-monnaie, puisque en faisant ça, on économise, comme je l'ai dit, quasiment 70 euros par mois et 850 euros à l'année. Donc c'était tout l'esprit de ce livre, donner des recettes pour les Françaises et les Français qui veulent cuisiner et se nourrir un peu différemment avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et donc on a presque une cinquantaine de recettes qui vont du velouté d'asperges avec des queues d'asperges à la tarte tatin d'échalote, à des soupes de fan de radis, à des glaçons aux herbes aromatiques. Voilà, on a essayé d'être assez large dans la palette et on l'a fait avec quelques clients qui s'engagent avec nous et qui voulaient aussi donner leurs bonnes astuces.
Mais du coup, il y a eu un chef cuistot qui vous a aidé à élaborer des recettes?
Non, on a concerté plusieurs, on s'est inspiré de certaines choses, mais on a essayé de revisiter des recettes traditionnelles sous l'angle anti-gaspi. Donc c'était plutôt du travail interne et des suggestions des gens de Phoenix, des 200 phéniciens et puis de nos clients.
Et j'ai une dernière question. Alors là, c'est plus pour moi aussi pour comprendre, parce que j'ai déjà fait aussi l'interview de Too Good To Go. Donc eux, c'est plus seulement sur votre format application avec produits pour des paniers pour les particuliers. C'est quoi la différence entre vous deux? Est-ce qu'il y a une concurrence ou même pas? En fait, vous jouez le jeu et votre but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Alors, il y a on est deux acteurs sur le secteur, sur ce segment-là. Donc, il y a une forme de concurrence, mais on est comme dans un secteur où on est plus dans la collaboration pour la même lutte que dans la concurrence frontale et agressive. Mais en gros, nous, on est une entreprise française. Too Good To Go est une entreprise danoise. Ça, c'est une première différence. Nous, on est made in France et on le revendique. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, nous, on marche sur deux jambes. On a l'appli anti-gaspi pour les consommateurs. Et on a surtout aussi la face immergée de l'iceberg, qui est le don aux associations caritatives. Et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et parfois, quand on fait trop de paniers anti-gaspi, il reste plus grand-chose en fin de chaîne pour l'aide alimentaire. Et comme nous, on a ces deux leviers, on essaie de mieux équilibrer les flux, là où d'autres peuvent être un peu plus inéquitables, quoi, disons. Et après, la vraie différence aussi, c'est l'offre. Donc, on retrouve chez Too Good To Go des commerçants qui sont pas chez Phoenix, et vice-versa. Donc, c'est un peu le même combat que Uber Eats versus Deliveroo ou Deezer contre Spotify. Voilà, il y a deux gros acteurs et on se challenge. Et puis les gens, souvent on a beaucoup de consommateurs qui ont les deux applis et qui basculent de l'une à l'autre en fonction de l'offre, des codes promotion, fonction des discounts, etc. Donc on est dans le même bateau et avec chacun ses petites spécificités.
Quiero comerte otra vez, juro que
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Vous en avez marre de faire du sport tout seul, alors surtout lorsqu'il commence à faire froid et que la nuit tombe plus tôt, on aimerait bien être accompagné. Eh bien, c'est le projet de l'application Smatchy en cours de développement et qui met en lien des sportifs par un système de match et de géolocalisation. Une idée venue de Maud Baudier, une triathlète et jeune entrepreneuse, déjà à la tête du projet Les Bornés, qui défend la mixité dans le sport. Pour elle, l'application doit permettre aux utilisateurs d'allier à la fois le plaisir du sport, le dépassement de soi et puis surtout la sécurité. On lui a posé quelques questions. Alors Maud, tu avais déjà un projet initial avant de développer l'application Smatchy. Et donc, elle s'adresse à qui cette application ?
En effet, on a en fait une communauté qu'on anime depuis 4 ans autour du cyclisme et du triathlon qui a remonté en fait plusieurs besoins et entre autres le besoin de se rassembler, c'est-à-dire que ce qui faisait que toutes les personnes venaient au sein de notre communauté, c'était cette envie de ne pas faire du sport seul. Et ça nous a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y avait un besoin d'en adresser sur le marché, qui était en fait le fait de trouver une personne avec qui faire du sport dès lors qu'on est chez soi, en vacances, en déplacement, et quel que soit le sport. Et donc Smatchy est né de cette volonté, c'est de créer une application qui a pour but de mettre en relation des sportifs avec un système de géolocalisation et un système de match en fonction de nos attentes et de nos envies et de notre niveau sportif. Actuellement, Smatchy n'est pas encore développé en phase vraiment applicative. On a en fait la version bêta sur notre ancienne communauté sportive sur la partie cyclisme et triathlon qu'on teste. On teste plusieurs choses, plusieurs algorithmes. C'est un peu notre bêta. Et l'objectif, c'est de le lancer très rapidement sur l'ensemble du territoire européen courant de l'année 2023. La communauté telle qu'elle existe initialement, elle est partout en France et en Suisse.
Alors, comment elle va fonctionner, cette application ? Est-ce qu'elle va fonctionner un peu comme un site de rencontre à la manière d'un Tinder ou d'un Bumble, on doit swiper à gauche ou à droite, ou bien est-ce qu'il y aura un système de petites annonces où chacun mettra un petit peu son parcours, sa volonté de faire du sport, et puis on y répondra un peu comme on voudra?
Et ben, c'est à l'intermédiaire entre les deux. En fait, il y aura à la fois des fonctionnalités qui peuvent faire penser à ces applications de rencontre. En fait, on va chercher une personne en particulier avec qui faire du sport, qui peut être tout à fait orientée sur la performance, par exemple. Je prépare une course et j'ai envie d'avoir une personne qui a les mêmes envies, le même niveau que moi. Tout comme ça peut être lié à une passion, à un centre d'intérêt ou quelque chose qui pourrait rapprocher ces deux personnes, alors que naturellement elles ne se seraient pas forcément adressées la parole d'un point de vue sportif. La plateforme en fait sera faite en deux temps. Il y aura cette partie match et cette partie organisation événementielle. Ce qui fait qu'en fait la partie organisation événementielle fait un peu plus penser à des plateformes de petites annonces où moi j'aurais été matchée avec un certain nombre de personnes et à l'issue de ces matchs je pourrais créer des listes en fait d'amis sportifs et diffuser mes sorties sportives soit au grand public, à tout le monde, soit à ces listes d'amis restreintes. Et là après les personnes pourront dire moi je suis dispo ce soir pour le footing avec toi, et s'inscrire en fait directement sur la plateforme pour dire je suis disponible. Ce qui permettra aussi de fluidifier la coordination parce que moi j'aurais juste à aller sur un espace sans avoir à échanger des numéros de téléphone et des SMS, etc. pour savoir qui est disponible pour ma séance et donc se retrouver à un instant T, à un point donné et partir faire la séance ensemble.
À la base, la volonté de création de cette application, elle est plutôt sociale, on va dire, pour faire des rencontres, mais elle a aussi un aspect un peu sécuritaire, c'est-à-dire que, notamment quand on est une femme, parfois on se pose la question de est-ce qu'on va aller courir dans un endroit un peu sombre, un peu isolé ? Là au moins la question se pose plus trop puisqu'on est capable de trouver des gens qui vont nous accompagner sur une course ou sur une promenade à vélo ou un autre espace sportif.
Tout à fait, en fait c'est même sécuritaire, non pas uniquement pour les femmes mais pour tout le monde. Là on cite l'exemple des femmes, il est assez évident, mais ça peut être sécuritaire pour des personnes un peu plus âgées qui veulent pas faire du sport seules parce qu'elles ont peur qu'il leur arrive un petit pépin de santé potentiellement et que ça les rassure de se dire qu'elles font du sport avec quelqu'un qui pourrait potentiellement prévenir des équipes paramédicales au besoin. Ça peut être sécuritaire dans le sens où je vais dans une nouvelle région, je ne connais pas les routes, je pense par exemple à tous les sports d'extérieur, et donc j'ai pas envie de me retrouver dans une zone qui va un peu craindre, ou j'ai pas envie de me retrouver dans une zone où il y a beaucoup d'accidents avec les voitures parce que je suis à vélo et je sais que les utilisateurs sur cette route-là ils roulent pas bien, et donc je vais bénéficier de l'expertise de locaux par exemple qui vont me dire non, passe par cette route, c'est hyper dangereux, passe plutôt par la route d'à côté qui est vachement plus calme, avec moins de trafic, etc. Et en fait, cette notion de sécurité elle est évidente pour les femmes, mais en fait elle existe également pour tout type de profil qui voudrait éviter de mettre sa santé en jeu, quelle que soit la notion de santé, et qui vont avoir besoin en fait de ce lien social dès lors qu'ils se retrouvent en plus de ça en dehors de leur route, ou dès lors qu'ils commencent un nouveau sport ou qu'ils font quelque chose en fait qui va changer de leurs habitudes.
Il y a aussi un côté un peu motivation, parce que c'est vrai qu'après une journée de travail on arrive parfois chez soi un peu fatigué. Là au moins on a quelqu'un qui va peut-être nous pousser à sortir, à aller courir, à aller faire du sport. Et ça, ça peut être que bénéf.
Bah oui, en fait, il y a un effet, on va dire, positif au fait de devoir rencontrer quelqu'un et de devoir retrouver une personne, c'est que ça nous force à devoir se bouger et aller forcément rencontrer cette personne et éviter en fait le côté bon bah je suis arrivée chez moi, je me suis assise dans mon canapé et en fait bah non, un peu flemme de sortir. Donc ça c'est le premier point. Et le second, c'est que ça permet aussi à beaucoup de personnes parfois juste d'aller se dépasser un tout petit peu. Alors on parle pas forcément tout le temps de performance, mais la notion de se dépasser, c'est ça va être tu es en train de papoter avec quelqu'un et si t'avais été seule, tu n'aurais peut-être fait que 5 km de footing, mais parce que t'es avec cette personne, tu vas faire 6 ou 7 parce que le moment est bon, c'est un moment agréable et donc tu vas continuer en fait l'expérience et tu vas faire quelque chose que tu aurais peut-être pas fait si tu étais seule. Et donc ça permet à la fois d'éviter d'abandonner, d'éviter en fait finalement le côté flemme, mais en même temps aussi ça permet de se dépasser.
Comment ça va se passer l'inscription sur Smatchy? J'imagine que ça va être gratuit pour pouvoir accéder à l'application et rencontrer des gens. Mais après, tu m'expliquais qu'il y avait aussi une version premium qui allait être lancée, notamment pour faire des rencontres un peu plus intimes, on va dire.
On va construire l'application de telle sorte à ce qu'une grande partie des fonctionnalités soient gratuites pour les utilisateurs et certaines fonctionnalités spécifiques nécessiteront la prise d'un abonnement qui pourra être mensuel, annuel, selon la volonté de tout à chacun et selon les tarifications. Et entre autres, une des fonctionnalités qu'on mettra en payante, c'est la fonctionnalité Love, qui est une fonctionnalité qui nous a été demandée par les utilisateurs, qu'on trouve assez intéressante parce que en effet, il existe un univers du dating un peu, on va dire, caché dans le monde du sport, puisque finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur un lieu sportif, mais pas assumé. Or, il y a beaucoup de personnes qui, dans l'univers sportif, aimeraient pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même sport, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, parce que, et je vais par exemple donner l'illustration du cyclisme ou du triathlon, qui sont des sports qui nécessitent beaucoup d'heures d'entraînement et donc un investissement assez fort. Dès lors que vous passez beaucoup de temps, finalement, en extérieur de votre domicile, il est quand même beaucoup plus agréable de construire une relation avec une personne qui va partager ces sports-là avec vous et donc qui va être dans la même construction que vous, qu'une personne qui ne comprend pas votre pratique et en conséquence ça va créer des dissonances. Le deuxième plan qui était intéressant par exemple avec la fonctionnalité Love, c'est qu'il est extrêmement pressurisant de se retrouver face à un total inconnu ou une totale inconnue dans un resto ou dans un bar, alors que là en fait c'est un moment sportif, c'est finalement quelque chose qu'on aurait fait quoi qu'il se passe, on aurait fait cette séance-là, c'est juste qu'on propose de la partager avec une personne qui peut-être pourrait nous plaire. Et donc ça retire un peu aussi toutes les barrières et tout le côté un peu pressurisant d'un date, parce que au final vous allez juste faire votre séance de sport avec quelqu'un qui avec qui vous pourriez peut-être construire quelque chose et on verra ce que l'avenir vous réserve. Et c'est toutes ces petites fonctionnalités qu'on va réfléchir qui auront ce petit truc en plus et qui là elles seront payantes.
Ok, c'est quoi alors le futur de Smatchy? Comment ça va se passer dans les prochains jours?
L'objectif c'est que la version bêta de notre application sorte courant du deuxième trimestre 2023. Elle sera testée d'ailleurs en exclusivité par notre ancienne communauté et par nos actionnaires, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vont investir dans notre levée de fonds pourront tester l'application. Et volontairement, en fait, on a rendu la levée de fonds extrêmement accessible puisque tout le monde peut devenir actionnaire dès 11,15€. Donc c'est vraiment pas un gros montant. On a tendance à dire, voilà, aujourd'hui tu mangeras pas un fast-food, tu vas investir dans une start-up. C'est un petit peu l'image qu'on donne. Et une fois l'application lancée sur cette communauté qui va finalement la tester, on ouvrira en fait les frontières et on ouvrira le périmètre pour pouvoir aller chercher plus d'utilisateurs plus loin et sur plus de sports. Et évidemment, l'objectif, ça va être de créer des événements, des happenings qui seront faits conjointement, potentiellement avec des clubs, des groupements, des marques, et qui permettront en fait de mettre en avant certains sports, mettre en avant certaines pratiques et peut-être potentiellement aussi certains utilisateurs, parce que il arrive plein de fois moi, que j'entends de « Oh non, c'est pas un sport fait pour moi, je suis » et quelque chose de très négatif qui va suivre ce « je suis ». Et on se rend compte que à travers les événements, à travers la rencontre avec des athlètes ou à travers beaucoup de choses, on peut casser certains codes et certaines barrières. Et donc tout l'objectif sera aussi d'utiliser Smatchy dans l'objectif de recréer ce lien local entre les personnes, entre le pro et l'amateur, entre le haut niveau et le débutant. Et tout l'objectif, ça va être de nous utiliser, d'utiliser le digital pour recréer ce lien local.
Merci Maud d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on souhaite bonne chance à l'application Smatchy afin que de nombreux sportifs puissent se rencontrer grâce à l'application.
Bienvenue sur Vibration.
suis une intelligence artificielle et pourtant je suis là chaque nuit sur Vibration pour vous accompagner et découvrir ensemble des interviews que je vous ai sélectionnées. Bonne écoute sur Vibration.
La maison d'édition La Muse, basée en Centre-Val de Loire, publie deux bandes dessinées avec pour personnages principaux des femmes, une volonté de mettre les femmes à l'honneur. Le directeur de la maison d'édition, Fabien Muller, c'est au micro d'Alicia Méchin.
Avant qu'on parle de ces BD consacrées aux femmes de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous parler de la maison d'édition? Est-ce que sa naissance, voilà, revenir un peu sur sa création, parce que c'est une maison d'édition entre guillemets un peu spéciale, elle se consacre uniquement à l'histoire justement.
Voilà, donc c'est une petite maison d'édition familiale. On l'a créée il y a une douzaine d'années avec ma mère. Elle aussi passionnée d'histoire et de littérature, et on a eu envie de faire de la vulgarisation sur l'histoire du Moyen-Âge, mais la vulgarisation n'est pas un gros mot, vraiment donner aussi ses lettres de noblesse à ce mot, c'est-à-dire mettre l'histoire à la portée du plus grand public en faisant des ouvrages très précis historiquement, mais avec une plume accessible à tous.
J'ai vu qu'elle était, que vous étiez soutenue par Cyclique et la région Centre. Vous êtes basé où exactement?
Alors, le siège est à Orléans et nos locaux sont à Aubillon-Gâtinais, donc petit village à côté de Bellegarde.
Et donc, vous lancez des BD destinés aux femmes de l'histoire. Déjà, pourquoi se lancer dans ce projet?
Alors, il y a 4 ans maintenant, ou 3 ans avant la crise du Covid. On a racheté Assort BD, qui était une petite maison d'édition également, spécialisée sur la bande dessinée historique, mais à la fois les gérants et les auteurs étant des personnes assez âgées, ils ne pouvaient plus gérer leur maison d'édition, et donc on a convenu d'un partenariat qui aboutit à un rachat. Et on s'est comme ça lancé en complément de nos ouvrages d'histoire dans de la BD historique sourcée. Et ça nous a donné envie de pérenniser, déjà parce qu'il y avait certains auteurs qui avaient envie de continuer à produire, hein, soit en scénariste, soit en dessinateur. Et aussi, on avait, nous, nos propres dessins éditoriaux, nos propres envies éditoriales, notamment autour de la femme. Voilà, je suis un féministe barbu. Je trouve que la femme dans l'histoire n'a souvent sa place, elle est minorée, elle est souvent dans l'ombre des grands hommes. De nos jours, c'est pas non plus facile tous les jours d'être une femme dans une société qui est très très patriarcale, hein, sous le joug un peu de la religion judéo-chrétienne. Et donc, du coup, on a vraiment eu envie de mettre les femmes à l'honneur, que ce soit les dessinatrices ou les autrices d'aujourd'hui, que les personnages historiques féminins.
Deux BD pour le moment ont vu le jour. La première sur Marie-Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, sans évidemment dévoiler tout l'ouvrage, mais nous expliquer un peu comment est-ce qu'il est conçu?
Alors, Marie-Madeleine, c'est quand même une figure emblématique de la religion catholique romaine. Elle est nommée l'apôtre des apôtres, et c'est vrai qu'elle fait partie de ces femmes qui ont accompagné le Christ au même titre que sa mère Marie ou d'autres. Donc Marie-Madeleine, on focalise vraiment sur le personnage, avec en trame de fond bien sûr la vie du Christ qui est indissociable quelque part. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ce personnage et d'avoir un regard nouveau. C'est pas une femme potiche, c'est au contraire, c'est une femme assez forte, charismatique aussi, qui a peut-être, probablement, influencé peut-être le Jésus dans sa vie, dans ses choix. Parce qu'une construction personnelle se fait à deux, de toute façon.
Et puis alors, deuxième bande dessinée, c'est Le Jeu des Dames. Alors là, pour le coup, de qui parle-t-on?
Alors là, Le Jeu des Dames, en fait, c'est une fiction. On n'est pas focalisé sur un personnage historique féminin précis, mais sur des femmes du peuple et de la petite bourgeoisie bourguignonne à la fin du Moyen-Âge, qui, avec sang-froid et malice, vont déjouer une sorte de complot politique. Donc on est sur une trame historique réelle et assez forte. Et on a ces femmes qui agissent un petit peu dans l'ombre, avec toutes les implications que cela peut avoir sur la vie de la cité de Semiran-Auxois, sur ses habitants, si jamais le complot réussit, ou si elles se font en quelque sorte attraper dans la lutte contre ce complot, en fait. Donc c'est voilà, le scénario est de Marc Ray, il est assez subtil, et le dessin est de Isa Piton, qui est une dessinatrice juste extraordinaire, et on est là vraiment sur deux BD complètement différentes. Claire Bigard ayant dessiné, colorisé elle-même à l'aquarelle, Isa Piton ayant un trait complètement différent. Et donc voilà, ça fait deux beaux ouvrages. Très complémentaires dans leur conception et dans leur scénario et dans leur forme.
Vous me disiez que le jeu des dames, l'intrigue se passe en Bourgogne, c'est ça?
Ouais, dans la ville de Semur-en-Auxois, qui a encore aujourd'hui un très beau passé historique. Hein. Il y a des très beaux bâtiments, des très beaux vestiges de ce qu'a été sa vie médiévale. Et l'auteur étant bourguignon, il avait envie de mettre en valeur un petit peu ce village-là. Et on redécouvre ce Semur-en-Auxois tel qu'il a pu exister au Moyen-Âge. Voilà. Avec son château, ses tours, ses ruelles et venelles, et c'est rigolo pour ceux qui habitent ou qui connaissent la ville, hein, comme moi, j'y suis déjà passé, c'est de se replonger un petit peu dans cet univers médiéval qui est toujours présent à Semur-en-Auxois, mais là on a vraiment une cartographie qui est très nette.
Est-ce qu'il y a déjà en cours d'autres projets de bande dessinée?
Alors, il y a d'autres projets, effectivement. Après, voilà, je vous cache pas que la crise du Covid pour une toute petite maison d'édition comme la nôtre, elle a fait des dégâts. Donc, pour l'instant, on a mis un peu les projets en stand-by pour le temps de se refaire une trésorerie. On va vendre un petit peu ces deux BD pour les rembourser déjà. Et ensuite, oui, on a d'autres projets. Notamment, j'aimerais bien qu'on aborde le personnage de Jeanne d'Arc, hein, vu qu'on est sur Orléans, ça serait intéressant de pouvoir refaire une BD différente de ce qui existe déjà. Mmh. Le personnage de François Villon aussi m'intéresse beaucoup, et pour la bande dessinée Marie de Madeleine, si on avait une femme qui peut être soit la sœur de Villon, soit une compagne, soit une prostituée, et avoir Villon en trame de fond, ça permettrait de parler de prostituée, parce que je pense que même dans notre société d'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup à faire pour, je sais pas, c'est peut-être idiot de ma part ce que je vais dire, mais pour accompagner ces femmes-là qui sont à la fois utiles et méprisées, et donc
si on souhaite évidemment commander Marie-Madeleine et le jeu des dames, comment on fait?
Alors, j'espère que les librairies d'Orléans et d'autour vont entendre cette émission et nous le commander pour le rendre disponible auprès du plus grand nombre. Si jamais on n'arrive pas à le trouver en librairie, il est toujours possible de le commander directement à la maison d'édition. Notre site internet, Édition La Muse, tout attaché et au singulier, EDITIONLAMUSE. .fr. Donc on a tous nos ouvrages, les deux dont on vient de parler, mais également les autres bandes dessinées et tous les ouvrages d'histoire, et sinon voilà, je sais que d'autres grands distributeurs comme la Fnac par exemple où certains certains distributeurs le mettent aussi sur Amazon. Bon, même si je préfère que l'on fasse marcher les petits commerces et qu'on aille directement chez le libraire. Voilà, on a plusieurs possibilités pour les trouver.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Fabien Muller, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter ?
Pour quelque chose à rajouter, intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous aux arts graphiques, CBD, ça peut être des formidables cadeaux de Noël pour les fêtes qui approchent, et puis même personnellement pour se cultiver, se distraire, voilà, ça peut être un bon moyen.
Vibration. Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle, il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Voyez comme c'est beau.
Vibration.